Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. À moins de 10 jours de la présidentielle en Russie, difficile de motiver les électeurs tant les jeux semblent joués d'avance. Il y a bien une surprise, la candidature de Xenia Sobchak. Pour beaucoup, cette candidature aurait été avalisée par le Kremlin afin de susciter un peu d'intérêt autour de l'élection. La journaliste de 36 ans mène en tout cas campagne et fait entendre une voix dissonante dans les médias. Son équipe utilise tous les moyens de communication modernes et derrière sa stratégie numérique, il y a Vitali Shklyarov, un consultant politique venu spécialement des États-Unis. Étienne Bouche l'a rencontré à Moscou.
Veste noire sur t-shirt noir, le contact facile. Vitali Shklyarov correspond assez bien à l'image que l'on se fait d'un conseiller de Xenia Sobchak. Ce Biélorusse de 41 ans parle 5 langues, a fait ses études en Allemagne avant de partir travailler aux États-Unis. À l'époque, en 2008, Barack Obama fait campagne pour accéder à la Maison Blanche. Vitali Shklyarov s'engage à ses côtés. Pour lui, le candidat Obama est la preuve que la politique peut être, selon ses termes, cool et sexy. 8 ans plus tard, c'est pourtant le septuagénaire Bernie Sanders qu'il soutient. Rien de contradictoire selon lui, Sanders est un vieux socialiste qui attire les jeunes. Un profil suffisamment atypique pour l'intéresser. En Russie, Shklyarov a trouvé une autre figure hors norme. Xenia Sobchak a été une vedette de télé-réalité scandaleuse avant de devenir, dans les années 2010, journaliste politique pour une télévision d'opposition. Sa personnalité reste très impopulaire, mais qu'importe, pour le conseiller politique, Sobchak est un bon produit. Dans le pays, sa notoriété est quasiment imbattable et surtout, son père fut le mentor de Vladimir Poutine et elle tient de lui une proximité avec le monde politique. Pour Vitali Shklyarov, c'est incontestablement un atout.
Elle a un regard tout à fait différent sur Poutine. C'est important car quand vous grandissez dans un système où Poutine est un être inaccessible, où il est le président, le patron, il se situe toujours au-dessus des autres. Mais quand Poutine passe boire le thé à la maison avec ton père, tu le vois comme une personne ordinaire. Et c'est quelque chose qui va conditionner la manière de te comporter.
Shklyarov sait que sa candidate fera un score anecdotique, mais il s'est engagé à ses côtés pour autre chose. Faire entendre un autre discours et semer des graines pour l'avenir. Le changement en Russie, ce n'est pas pour tout de suite.
Et si les migrants devenaient les entrepreneurs de demain en Europe? C'est l'idée audacieuse d'une coopérative sociale dans le nord de l'Italie. Elle a mis sur pied un programme d'accompagnement à l'entreprise dédié aux migrants des centres d'accueil de la région. Reportage de Cécile Debarge à Cadoneghe, dans la province de Padoue.
Rideaux tirés, lumière baissée, table mise soigneusement en cercle les unes à côté des autres, voilà comment transformer la petite salle communale de Cadoneghe en salle de classe. Dans l'ombre des documents que projette le rétroprojecteur, 5 visages attentifs, dont celui de Christian Essomé, 34 ans.
Le coup, c'est d'avoir une idée. Comment faire pour être entrepreneur? Parce qu'à la longue, tu peux changer d'idée, mais c'est d'avoir une idée générale pour être entrepreneur. Si tu as un projet dans la tête, comment s'y prendre pour réaliser ce projet?
Ce Camerounais d'origine est arrivé en Italie en octobre 2016 après un éprouvant voyage en Méditerranée. Le bateau pneumatique à bord duquel il se trouvait a fait naufrage et 100 de personnes sont mortes. Un souvenir qu'il préfère effacer de sa mémoire, tout comme les raisons de son départ du Cameroun. Son avenir, c'est en Italie qu'il le voit et pourquoi pas à la tête de sa petite entreprise de réparation à domicile, projet dont il a déjà imaginé les moindres détails.
Je veux faire un logo d'un technicien, peut-être avec des clés, des tournevis en main, pour dire qu'il peut faire des interventions dans les maisons. Par exemple, si peut-être j'avais un robinet qui est gâté, vous pouvez m'appeler, puisqu'il y a mon contact sur ma figurinette, vous pouvez m'appeler directement, je viens intervenir.
Réaliser un logo, prévoir une communication ou encore gérer ses finances, voilà quelques-uns des aspects étudiés par les futurs entrepreneurs au cours du module de 68 heures. Ensuite, à eux de les mettre en œuvre.
Pour trouver les finances, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut monter un business plan, avoir un projet vraiment clair, aller au niveau de la banque, demander à la banque est-ce que vous pouvez m'accorder.
Trouver un capital de départ, c'est aussi la préoccupation d'Andrea Ibrac, originaire de Moldavie. Il a pu intégrer le projet après avoir perdu sa jambe. Cela fait 5 ans qu'il ne travaille plus. Il était chauffeur routier et souhaite désormais ouvrir une concession d'automobile d'occasion.
Je dois tout faire tout seul, mais grâce à ce cours, au moins, je sais comment démarrer une entreprise, faire un business plan. Je ne savais même pas ce que c'était avant de suivre ce cours.
Andrea Ibrac vit depuis 11 ans en Italie et sait parfaitement que la partie la plus difficile n'est pas d'ouvrir son entreprise, mais de la faire fonctionner.
Il faut une certaine somme d'argent pour commencer. Il faut ensuite faire toute la paperasse, régler les questions de TVA. Et puis une fois que tout cela est fait, tu dois bien comprendre quels sont les points de force pour maintenir ton activité.
Pour cela, les 5 jeunes hommes ont rencontré experts et professionnels du secteur pour voir si leur projet était réalisable. Pourtant, tous ne deviendront pas entrepreneurs dans un futur proche. Claudio Voltan fait partie de la coopérative sociale Veneto Insieme à la tête du projet. Ce ne serait pas correct, dit-il, de leur promettre que ça marchera.
L'idée en amont, c'était de dire, bon, comment on fait pour que ces jeunes puissent se faire une idée de la manière de mettre en avant leur savoir-faire, leurs compétences, et pas simplement en termes entrepreneuriales.
En clair, savoir se vendre sur le marché du travail, et c'est finalement la raison principale pour laquelle le projet a été monté, explique Claudio Voltan.
Malgré un contexte hostile, trouver le moyen d'apporter quelque chose de fertile à ces personnes, c'est important. Ça peut passer par la recherche d'un emploi, mais aussi, pour certains d'entre eux, par l'idée d'entreprise. Et parfois, c'est très accessible.
Car dans leur pays d'origine, au Nigeria, au Mali et au Cameroun, les 5 jeunes hommes travaillaient tous. Il y avait un couturier, un employé du bâtiment, un charpentier.
Quel est le but du projet ? D'abord et avant tout, réussir à établir un contact et une relation directe en essayant de comprendre quelles sont réellement les compétences des personnes, en essayant d'aller voir au plus profond d'eux quels sont leurs vœux et leurs rêves.
Augusta Parizzi est adjointe aux politiques sociales de la ville de Kadonégué. La ville de 7000 âmes fait partie de la riche province de Padoue. L'accueil des migrants y est souvent une question brûlante instrumentalisée par la Ligue du Nord. Le maire du Partito Democratico, Paolo Schiavo, a lui décidé de participer pleinement au plan territorial pour l'intégration des migrants. Le projet d'entrepreneuriat est selon lui le premier pas d'un long parcours.
Ce projet d'entreprise, s'il ne réunit pas bonne volonté, enthousiasme et passion, alors il pourrait se réduire en poussière.
Enthousiasme et passion, deux mots que l'on entend d'ordinaire si peu dans les centres d'accueil et pendant les longs mois que dure la demande d'asile. C'est pourtant la clé des parcours d'intégration. Alors, avec enthousiasme et passion, toujours, la coopérative aimerait ouvrir prochainement un laboratoire de start-up pour accueillir de nouveaux migrants.
Et oui, avis à tous les travailleurs, hein, ceux qui se fient à l'heure de l'horloge du four ou de leur radio réveil feraient bien de se méfier. Depuis la mi-janvier, certaines de nos pendules accusent jusqu'à 6 minutes de retard. La cause, eh bien, une guerre énergétique lancée par le Kosovo au sein du réseau européen d'électricité. Et Simon Rico nous dit tout de ce bras de fer.
Pour faire défiler les secondes au bon rythme, les horloges des appareils sur secteur se synchronisent sur la fréquence du courant électrique qui se maintient à 50 Hz dans tous les pays d'Europe. Autrement dit, ces horloges se calent sur les 50 impulsions électriques reçues chaque seconde pour rester précises. Si jamais cette fréquence n'est pas respectée, les horloges s'affolent. Et c'est ce qui se passe depuis un mois et demi. Selon les calculs de l'ENSO-E, l'association qui réunit les fournisseurs d'électricité de 25 États européens, la moyenne atteint seulement 49,996 Hz. Une infime différence, mais qui provoque le ralentissement des horloges s'accumulant jour après jour. À tel point que les horloges qui n'ont jamais été réglées affichent aujourd'hui un retard de 6 minutes. Cette anomalie, une première dans l'histoire, n'a pas pour origine une panne ou une catastrophe climatique. Dans un communiqué publié mardi, l'ENSO-E a accuse le Kosovo de baisser volontairement et massivement la production d'électricité qu'il doit injecter dans le réseau européen interconnecté afin de maintenir l'équilibre énergétique du continent. Le Kosovo cherche ainsi à faire pression pour obtenir son intégration pleine et entière au sein de l'ENSO-E. La Serbie, elle, qui a pour mission d'assurer l'équilibre en fourniture électrique des Balkans, refuse de produire plus pour des raisons politiques. Belgrade considère en effet le Kosovo comme partie intégrante de son territoire et conteste son indépendance, déclarée unilatéralement à l'hiver 2008. D'autres pays pourraient en principe décider de compenser ce manque d'électricité pour maintenir la fréquence à 50 Hz, mais tous s'y refusent pour ne pas avoir à en supporter le surcoût. L'ENSO-E espère convaincre Belgrade et Pristina de revenir à une production normale d'ici dimanche. Mais il faudra encore plusieurs semaines pour remettre les pendules à l'heure.
Faut-il interdire les corridas aux enfants spectateurs ? Le débat autour de la corrida et de la souffrance qu'il inflige à l'animal fait rage depuis des années. Aujourd'hui, c'est le Comité de défense des droits de l'enfant à l'ONU qui s'empare du sujet et qui demande à l'Espagne d'interdire l'accès aux arènes à tous les mineurs. Les militants anti-corrida applaudissent évidemment. Les aficionados, eux, estiment qu'il s'agit d'un nouveau coup porté à la tradition. À Séville, Laetitia Dive est allée constater que les différentes générations sont encore très attachées à cette pratique. Reportage.
Nous sommes à Triana, l'un des quartiers les plus authentiques de Séville, connu pour ses processions lors de la Semaine Sainte et pour ses danseurs de flamenco. Mais c'est une toute autre passion régionale qui lie Juan Miguel Pereira et Ignacio Tayón. Tous deux sont des aficionados de corrida depuis le plus jeune âge et ils sont membres de la même association taurine.
On organise même des rassemblements mensuels durant lesquels on invite généralement un professionnel du monde de la tauromachie pour en apprendre plus sur les taureaux car c'est ce qui nous plaît.
Les deux quinquagénaires disent avoir entendu parler de la demande de l'ONU. Le Comité de défense des droits de l'enfant souhaite en effet que l'Espagne ne permette plus aux mineurs d'assister à des corridas. Mais ils estiment qu'en Andalousie, cette idée ne fera jamais son chemin.
Je pense que l'ONU n'a absolument pas le pouvoir d'empêcher les mineurs de se rendre à un spectacle public totalement légal. Ils peuvent faire campagne pour sensibiliser, pour mobiliser, faire des recommandations, mais pas grand-chose de plus.
Ici, la passion pour les taureaux se transmet de génération en génération et dans les arènes d'Andalousie, on peut voir des enfants de tous les âges. Juan Miguel a assisté à sa première corrida alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson.
Mon grand-père était journaliste taurin, il travaillait pour différents médias et comme il était abonné aux arènes de Séville, il m'a emmené, moi, son premier petit-fils, à une corrida. J'avais 7 mois et quelques jours. Depuis, je n'ai jamais raté une saison. Mes deux enfants y vont aussi depuis qu'ils sont tout petits et les deux aiment les taureaux.
Cette passion ne l'a jamais quitté depuis et il travaille aujourd'hui à la Maestranza, la reine sévillane. Pendant les spectacles, il dit voir un certain nombre de jeunes qui viennent entre amis. Parmi eux se trouve Alvaro, un étudiant de 20 ans. Il n'a pas manqué une seule corrida depuis des années et il s'inquiète des intentions de l'ONU.
Ils veulent interdire l'entrée aux moins de 18 ans, car c'est pendant l'enfance que tes parents te transmettent le goût de la corrida. S'ils y parviennent, ils pourraient atteindre leur objectif et ainsi éradiquer la discipline.
Car pour le jeune homme, rares sont ceux qui deviennent aficionados une fois l'âge adulte atteint. Lui baigne dans le monde de la tauromachie depuis sa naissance, au point qu'il a décidé d'y plonger complètement. Depuis 3 ans, Alvaro prend des cours dans une école taurine aux côtés d'autres jeunes. Ce matin, ils ont rendez-vous dans une petite commune à proximité de Séville. Après l'échauffement, Pablo, tout juste 18 ans, vient parler de la tâche dont il hérite pour maintenir une tradition très ancrée dans la région.
C'est un héritage ancestral et on doit le défendre un peu plus chaque année. C'est une tradition à respecter et je trouve ça bien que ce soit accessible à tous les publics.
Les apprentis toreros sont en effet à contre-courant de la tendance actuelle. Selon le dernier sondage effectué en Espagne, 71% des 15-34 ans seraient contre la corrida, quand seulement 10% y seraient favorables. Eux disent n'avoir aucun problème à parler de leur passion et ils estiment que les nouveaux moyens de communication jouent en leur faveur.
Avec les réseaux sociaux, c'est plus facile. Ça aide à diffuser nos valeurs, à faire comprendre aux anti-tauromachies qu'il s'agit d'une culture et que beaucoup d'emplois en dépendent.
Da mucho puesto de trabajo.
Le secteur taurin représente en effet une part non négligeable de l'économie andalouse. Les ganaderias, ces domaines où on élève les taureaux, sont nombreux sur le territoire. Il en existe plus d'une centaine et 50% des écoles taurines espagnoles y sont installées, à l'image de celle que fréquentent Alvaro et Pablo. Elle est dirigée par Luis de Paulova, un ancien matador. Lui estime que les jeunes de la région ne sont pas prêts de déserter les arènes.
Ces derniers temps, je vois beaucoup de jeunes entre 14 et 30 ans qui se déplacent quand le spectacle est bon. Nous, on emmène aussi les collègues dans les ganaderias pour qu'ils voient comment on s'occupe des taureaux, comment on les élève. Les enfants sont contents. Ensuite, on les invite à une corrida, la partie la plus dure, entre guillemets.
Pour l'ancien torero, cette familiarisation au monde des taureaux est nécessaire aujourd'hui pour que la corrida soit mieux comprise dans la société et qu'elle puisse ainsi subsister grâce aux jeunes générations, car tous les aficionados le reconnaissent quand même à mi-mot. Un public non averti a des chances d'être choqué lors d'une mise à mort. Est-ce donc plus particulièrement le cas pour les plus jeunes? Carmen est spécialiste de la petite enfance et elle estime en effet qu'il y a un âge pour tout.
C'est très impactant, je crois. On peut faire une autre chose pour montrer des folklore espagnol sans emmener les enfants à voir une corrida. Il y a beaucoup de peintures qui reflètent ce moment-là de la corrida et peut-être quand ils sont plus grands, ils peuvent commencer à voir qu'est-ce que c'est vraiment.
Pour le moment, la demande de l'ONU n'a eu aucune répercussion directe. Aujourd'hui, 14 des 17 régions espagnoles autorisent toujours la présence de mineurs dans les arènes.
May I have your attention, please?
Music.
You like music?
Music
makes you lose control. Why don't you put a record on?
Et pour en parler justement avec nous, Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Alors une fois, n'est pas coutume, le titre que vous nous proposez aujourd'hui n'est pas une nouveauté, loin de là.
Hein. Et oui, c'est une chanson qui a plus de 35 ans. Elle figure sur la compilation La Contra Ola qui, elle, vient de paraître et propose un beau panorama de ce qu'a été la pop synthétique et le post-punk espagnol au tout début des années 80. Alors on le sait, l'Espagne a connu une véritable vitalité artistique assez exceptionnelle après la mort de Franco en 75. C'est ce qu'on a appelé la Movida avec son volet musical, la Nueva Ola, une nouvelle vague pop qui bientôt se normalise, parfaitement digérée par l'industrie culturelle. Et c'est en réaction à ça qu'émerge cette Contra Ola, une contre-vague profondément marquée par l'insolence du punk et qui, à partir de 1981, voit fleurir des groupes qui ont un usage tout à fait spontané et décomplexé des instruments électroniques, synthétiseurs analogiques, séquenceurs et autres boîtes à rythme. C'est le cas du groupe El Aviador Dro avec son étonnant Nuclear Sea en 1982.
Si, ça date de 1982, pas tout jeune, hein, emblématique donc de la Contra Ola. La semaine prochaine, Vincent.
À la semaine prochaine.
Et merci de nous avoir suivis toute cette semaine. À la réalisation, bien sûr, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur rfi.fr ou sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.